Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 25 août.
Afghanistan, 380 personnels civils de recrutement local attendus demain à Séoul. Covid-19, plus de 2000 cas en 24 heures, la vaccination s'accélère. Spéculation immobilière, le PPP demande le départ de 6 de ses 12 élus à épingler. Enfin, Samsung annonce un vaste plan d'investissement et de recrutement pour les 3 ans à venir.
On commence avec l'actualité internationale. C'est désormais officiel, quelques 380 Afghans doivent arriver demain à Séoul à bord des avions de transport de l'armée sud-coréenne. Ce sont tous des personnels civils de recrutement local et leurs familles, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le gouvernement. Celui-ci a précisé que certains d'entre eux avaient travaillé dans l'ambassade de Corée du Sud à Kaboul, la capitale, et les autres dans les hôpitaux ou les centres de formation professionnelle que Séoul avait établis pour la reconstruction du pays d'Asie du Sud, tous pendant plusieurs années. Selon le second vice-ministre des Affaires étrangères, ces civils afghans sont attendus à Séoul en qualité de contributeurs exceptionnels et non sous le statut de réfugiés. Choi Jong-moon a également fait savoir, conformément à la décision de l'exécutif, une task force interministérielle avait aussitôt été mise en place pour les ramener au pays du matin clair et d'ajouter que c'est son ministère qui a organisé leur évacuation et leur transport et que c'est le ministère de la Justice qui les aidera à s'y établir. Toujours selon le vice-ministre, ses collaborateurs ont demandé à pouvoir se rendre à Séoul depuis le début du retrait des soldats américains. L'administration de Moon Jae-in a ensuite envoyé 3 de ses avions militaires à l'aéroport de Kaboul en étroite coopération avec les pays étrangers.
Comme on s'y attendait, le ministère de la Justice a pris sa décision sur le sort des ressortissants afghans vivant en Corée du Sud. Lors d'un point de presse aujourd'hui, il a en effet annoncé une série de mesures spéciales les concernant. Il s'agit de leur accorder un titre de séjour exceptionnel et ce jusqu'à ce que la situation dans leur pays se stabilise. Environ 434 personnes en court ou long séjour en bénéficieront. Le titre de 169 d'entre elles expire dans moins de 6 mois et 72 se trouvent en situation irrégulière. Le ministère autorisera aussi à prolonger leur séjour à ceux qu'ils souhaitent parmi les Afghans en situation régulière, en particulier les étudiants, si leur domicile et leurs coordonnées en Corée du Sud sont vérifiées. Et les personnes devenues clandestines seulement en raison de la fin de validité de leur titre ne seront pas non plus expulsées si elles parviennent à trouver un ou des parrains locaux. Et si tel n'est pas le cas, les individus concernés seront protégés séparément, tout comme les criminels. À propos de toutes ces mesures, le garde des a souligné qu'elles étaient fondées sur des considérations d'ordre humanitaire et que dans la prise de décision, la priorité avait été donnée à la sécurité des Sud-Coréens.
Sur le front de l'épidémie de Covid-19, le coronavirus est encore loin de reculer et la propagation rapide de son variant Delta inquiète désormais le gouvernement. Ces dernières 24 heures, 2155 nouveaux cas positifs ont été recensés, soit 646 de plus que la veille. Leur nombre est ainsi repassé au-dessus de 2000 pour la première fois depuis vendredi dernier. Le Premier ministre a de nouveau exprimé sa grave préoccupation lors de la réunion quotidienne du Centre de gestion de crise. Aujourd'hui, Kim Bukam s'est inquiété en particulier de la flambée du Delta, qui est désormais confirmée parmi 9 infections domestiques sur 10. Il a alors cité les résultats d'une analyse de 24 000 patients menée par l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies, le KDCA. Cette étude montre que le Delta produit une quantité de virus 300 fois plus élevée que le coronavirus au début de l'apparition de la maladie. Sur la campagne de vaccination, le Premier ministre a affirmé que d'ici moins un mois, quelques 15 millions d'habitants y participeraient. Il a alors demandé au KDCA et à chaque gouvernement local de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème dans la conservation et la distribution des vaccins et que des erreurs de dosage ne surviennent pas dans leur injection.
Et justement, la campagne de vaccination anti-Covid s'accélère. La primo-vaccination des retardataires âgés de 60 à 74 ans doit s'achever aujourd'hui et dès demain, les 18-49 ans commenceront à se faire administrer jusqu'au 2 octobre avec les sérums de Pfizer et de Moderna. D'après l'équipe chargée du programme, jusqu'à minuit hier, 51,2% de la population ont reçu au moins une première dose et 23,9% les deux injections. Le gouvernement vise désormais l'objectif de 36 millions de primo-vaccinés et autant de citoyens totalement vaccinés respectivement avant la fête de Chuseok le 21 septembre et d'ici la fin octobre.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Comme prévu, le président Moon Jae-in s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue colombien Ivan Duque. La Colombie est la seule nation de l'Amérique latine ayant participé à la guerre de Corée et depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange en 2016, Séoul et Bogota ne cessent d'élargir leurs échanges commerciaux. Lors de ce sommet, Moon a proposé de resserrer la collaboration privée dans le secteur de transition numérique et de l'écologie, demandant de favoriser la participation des entreprises sud-coréennes compétentes au projet colombien. Duque a salué cette idée en précisant qu'il avait toujours loué le développement que la Corée du Sud a réalisé au travers de la technologie et de l'innovation. Il a également remercié la coopération de Séoul dans la réponse à la pandémie virale. À la fin de leur entrevue, Moon et Duque ont adopté une déclaration commune portant sur la vision pour de nouvelles relations bilatérales. Dans le texte, le dirigeant sud-coréen a salué l'intention de Bogota pour s'affilier à la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, tandis que le numéro 1 colombien a soutenu l'ouverture des négociations de Séoul pour devenir un membre associé de l'Alliance du Pacifique.
En politique intérieure, à l'Assemblée nationale, le bras de fer se poursuit autour de l'amendement controversé de la loi sur l'arbitrage des médias. Une législation qui prévoit de sanctionner lourdement les groupes de presse et d'audiovisuel publiant ou diffusant des fake news. Le Minju, la majorité présidentielle, souhaite le voter à tout prix en séance plénière, initialement prévue aujourd'hui. Pour cela, ses députés membres de la commission de la législation et des affaires juridiques ont adopté le texte dans la nuit de mardi à mercredi, en l'absence de leurs collègues du Parti du Pouvoir du Peuple, la principale force de l'opposition, qui le conteste farouchement. C'est la dernière étape à suivre avant que la loi ne soit mise au vote en séance plénière. Cela dit, celle-ci ne se tiendra finalement pas aujourd'hui face à la protestation du PPP qui dénonce un vice de procédure, invoquant la loi sur le Parlement. Le président de l'Assemblée, Park Byung-seok, a accepté l'argument des élus de la formation conservatrice et demandé aux deux bords de lancer leur concertation visant à trouver un terrain d'entente, mais les deux camps sont loin d'un accord. Le Minju a annoncé son intention de convoquer un débat auquel doivent participer tous les élus, du pouvoir comme de l'opposition. Le PPP songe à bloquer le vote final par l'obstruction parlementaire de ses députés.
Politique intérieure toujours. Après le Minju, la formation au pouvoir, c'est au tour du Parti du Pouvoir du Peuple, le PPP, de se retrouver dans la tourmente. Lundi, la Commission de lutte anticorruption et de défense des droits civiques, la CRC, a rendu public les résultats de ses enquêtes sur les éventuelles transactions immobilières spéculatives de tous les élus de cette principale force de l'opposition et les membres de leur famille. Elle a alors épinglé 12 d'entre eux, comme elle avait en juin pointé du doigt 12 députés Minju à l'issue de ces investigations de même nature. Dès le lendemain, le PPP a convoqué son Conseil suprême afin de plancher sur les sanctions à leur imposer. Après un débat marathon de plus de 7 heures, ses membres ont décidé de demander à 5 des parlementaires incriminés de quitter le parti, d'expulser une députée élue à la proportionnelle et d'accepter les justifications des 6 autres en les considérant comme étayées. Parmi ces 6 élus acquittés, Yoon Hee-suk a aujourd'hui annoncé son intention de démissionner de son poste de député et de retirer sa candidature aussi à la primaire du parti pour la présidentielle de 2022. Selon la CRC, si elle n'est pas impliquée dans des transactions douteuses, son père aurait violé la loi sur la terre cultivée. Économiste phare du PPP, Yoon Chine est particulièrement réputée pour ses critiques acerbes contre la politique immobilière de l'administration de Moon Jae-in.
Économie pour terminer. Hasard du calendrier ou non, 11 jours après la libération conditionnelle de son héritier, Samsung a dévoilé un important plan d'investissement et d'embauche. De fait, il a annoncé hier son intention d'investir 240 000 milliards de won, soit 175 milliards d'euros sur les trois prochaines années, dont 180 000 milliards de won en Corée du Sud dans les semi-conducteurs, les produits biopharmaceutiques, les télécommunications et l'intelligence artificielle. Le groupe a également décidé d'injecter de l'argent dans les puces non mémoire pour devenir aussi un leader dans ce segment. Et dans l'industrie biopharmaceutique, le premier Chaebol de Corée du Sud ambitionne de se lancer plus sérieusement dans le développement et la fabrication sous contrat de vaccins et de médicaments de thérapie génique, et ce pour contribuer au règlement de différents problèmes auxquels est confronté le pays du matin clair et constituer un nouveau moteur de croissance. La décision a aussitôt fait réagir certains experts, parmi eux le professeur Park Sang-in de l'Université nationale de Séoul. Pour lui, le grand patron d'un conglomérat ne doit pas intervenir dans les plans concrets d'investissement ou d'emploi. L'universitaire a alors déploré l'effet d'annonce de cette décision qu'il qualifie de précipitée. Hier, le mastodonte a également annoncé un recrutement de 40 000 nouveaux salariés sur 3 ans. Dans le passé, il en avait embauché quelques 10 000 par an. Le directeur d'un institut de recherche CXO a estimé que le nombre des employés de toutes les filiales du groupe devrait franchir vers 2024 la barre des 300 000 pour la première fois. C'est la fin de ce journal présenté aujourd'hui par Yoon Hae-jung et Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée à tous.